On va commencer rapidement. Avant tout, on avait oublié de remercier Willy Favre pour l'illustration qu'il nous a prêtée pour le colloque. Et voilà. Donc, tu commences ce matin, donc Hugo Roux qui va nous parler de création de personnages. Donc, je t'en prie, Hugo.
Ça marche, merci. Bonjour à tous déjà. Alors, on l'a bien compris hier, et aujourd'hui on comprendra encore mieux, l'engagement en JDR, il est multiple hein, et protéiforme. On ne peut pas se contenter de dire, par exemple, je suis engagé dans JDR. Ok, mais à quel niveau, qu'est-ce que ça veut dire en fait, être engagé? Est-ce que je suis engagé dans la fiction, dans le jeu en lui-même? Est-ce que je suis engagé dans la pédagogie, comme on a pu le voir, en association, ou bien dans Projet des Pélicans, ce genre d'exemple, quoi. Alors, quand on parle d'engagement, ça mérite finalement quelques précisions. Et ça va être l'objet de ma présentation, un des moments où l'une des manifestations de cette multiplicité, là où elle était observable, c'est la création du personnage. Et c'est pourquoi je vous propose finalement une modélisation des phases de création du personnage de fiction ludique. Il faut entendre par là le personnage de jeu de rôle de table. Et au-delà de ça, finalement, à chacune de ces phases de création, quelles sont les formes d'engagement que l'on peut observer. Alors, plan très simple, hein, je vais pas m'attarder dessus. Alors, le jeu de rôle de table, on l'a entendu hier, hein, je vais pas... Alors, pardonnez-moi si je dis des évidences, hein, on est tous au courant de ça, le jeu de rôle est un jeu démiurgique. Il est dans la mesure où les individus qui y jouent sont les créateurs d'univers ou... d'univers fictionnel dont ils ont la charge des lois qui les régissent, des mondes qui les composent et des entités qui les habitent. Et aussi de tout un tas d'autres éléments. Et surtout, ils ont la responsabilité, finalement, de la cohérence, d'assurer la cohérence de ces univers. Maintenant, le joueur, comment il s'inscrit dans ces univers, c'est à travers le personnage, qui est son vecteur et son dispositif d'immersion. D'autre part, donc ce personnage qui fait le lien, c'est un excellent indicateur de l'engagement du joueur dans le jeu et à bien des niveaux. Donc c'est ce qu'on va voir. La création du personnage de fiction ludique est complexe. Hein. On ne peut pas on ne peut pas se contenter de dire, par exemple, que la création de personnage se joue uniquement dans la phase de remplissage de la feuille de papier, quoi, hein, de la feuille de personnage. Elle répond à des contraintes qui sont d'une part ludiques, que ce soit les règles du jeu, au niveau stratégique, tout ça, référentielles. On ne crée pas, par exemple, si je prends un exemple bateau, Donjons et Dragons, on ne va pas faire un Space Marine. Voilà. La référence doit être bien présente. Elles sont également ces contraintes sociales. On fait en sorte de respecter la composition du groupe, d'être assez complémentaire, ce genre de choses. Et donc il y en a d'autres, hein, évidemment, des contraintes, et ces choix créatifs qui découlent de celles-ci sont d'autant plus déterminantes qu'elles auront un impact direct sur le jeu et l'évolution du personnage. À travers la création du personnage, peuvent se refléter les intentions de jeu du joueur. Hein. Ça, on en reparlera. Et c'est pourquoi, finalement, je vous propose une modélisation de cette création du personnage. Je l'ai déconstruite pour proposer un modèle qui est le suivant. Bon, déjà, deux mots sur le personnage. Comme je vous l'ai dit, le personnage est donc le principal vecteur et dispositif d'immersion dans l'univers fictionnel. Il est ce que Bartholens et Hall appellent l'opérateur du changement de point de vue. Alors, cette affirmation était surtout pour les personnages de grandeur nature. C'est également vrai, en tout cas de mon point de vue, pour les personnages de jeux de rôle de table. Alors, si d'une part le personnage remplit cette fonction, il incombe toutefois au joueur de percevoir la réalité alternative. Je vais citer ces auteurs qui disent aussi immersif que soit l'environnement ludique, voir et vivre le jeu relève d'une disposition personnelle. Donc déjà, on rentre dans la question de l'engagement. Voilà. On en arrive donc au modèle que je propose. Alors modèle AKI ou bien ACAI, peu importe, que l'on voit représenté par cette espèce de boucle. Je détaillerai chacune de ces phases. Et voilà, donc je le reprécise, mais ça ne se limite pas à la phase de caractérisation, à savoir la phase de, où l'on remplit la feuille de personnage. Loin de là. Elle n'est pas linéaire, hein, on n'est pas dans une temporalité, dans des temporalités qui vont dans un sens unique. C'est une boucle. Pourquoi ? Alors, j'en parlais hier déjà de façon informelle. Si vous voulez, je considère que la création d'un personnage, si vous voulez, elle nourrit chaque création de personnage a posteriori. Voilà. Mettons, je crée mon premier personnage, je commence le jeu de rôle. Voilà, super. Il arrive, soit j'en ai marre de celui-là, je m'en débarrasse, soit il meurt. Il y a différentes postures. Soit effectivement on adhère à ce type de personnage et on continue à les reproduire. Soit j'ai testé ce que ça donnait. Bon, ben la boucle et on repart dans, enfin, on repart vers d'autres personnages. Ce modèle se décompose en phases dont certaines peuvent se chevaucher sur les mêmes temporalités. Pas toutes, mais certaines, par exemple l'appréhension et la caractérisation peuvent se chevaucher. Bien souvent, on ne pense pas à son personnage avant d'être confronté, directement sur la table, lorsque le maître du jeu dit OK, on va faire le personnage. Voilà les possibilités. Enfin. On observe différents types d'engagement de la part du joueur. Mais ça, j'y reviendrai. Pas la peine de le détailler maintenant. Mais à chacune de ces phases, effectivement, on peut voir différentes natures d'engagement. Alors, la première phase étant l'appréhension. On n'est pas directement, comment dirais-je, dans une phase... c'est la phase pré-caractérisation, où finalement, le rôliste choisit le personnage à jouer en fonction de nombreux paramètres. D'où l'appréhension. C'est l'idée qui se fait finalement en ayant connaissance de l'univers, de ses possibilités créatives. Ça renvoie à l'intérêt particulier que portent les individus envers un ou plusieurs univers fictionnels, donc, ainsi qu'aux archétypes qui les peuplent. Voilà, hein, c'est très simple. Si je me fais une idée, je reprends mon exemple de Donjons et Dragons. C'est là, je me dis bon, les elfes, ça m'intéresse, ce genre de choses, hein, en fonction des affinités. Ça correspond au style de Guyot, qui, déjà au précédent colloque, appelait le style, donc, dans son modèle 6. Et, je le cite pas, mais je vais le paraphraser. Le style peut être considéré comme un élément du phénomène d'appréhension, donc, du modèle Akai. Le style détermine l'intérêt particulier que porte l'individu envers un ou plusieurs univers fictionnels, ainsi qu'aux archétypes qui le ou les peuplent. Le style correspond à l'éventail de rôles susceptibles d'intéresser le joueur au point de vouloir les interpréter lors d'une partie de jeu de rôle de table. Ok. Tout en bas là de la diapo, j'ai mis en fait, j'aurais pu en mettre d'autres, mais j'ai mis un exemple de gradient d'engagement avec deux pôles antagonistes, on va dire, sur lesquels peuvent basculer les joueurs en fonction de leur façon de voir la chose. Alors typiquement dans l'appréhension, c'est peut-être la phase dans mon modèle où l'engagement est le moins perceptible. En tout cas, c'est celui où j'ai eu le plus de difficultés à trouver cet exemple. Donc j'ai trouvé un gradient qui les deux pôles sont la convergence référentielle qui permet de réduire, si vous voulez, les dissonances en termes d'appréhension, parce que des fois, bon, on ne connaît pas l'univers, et convergence référentielle, ou avec acquisition de l'information et des références en vue de pouvoir être en adéquation finalement avec l'univers, et sinon, de l'autre côté du gradient, la divergence référentielle, où quelque part, on peut ne pas avoir du tout de connaissances sur l'univers et les personnages qui le peuvent. C'est un exemple, hein, il pourrait y en avoir d'autres. Ensuite, la caractérisation, qui est la phase d'établissement d'un personnage exploitable en jeu. Hein. Dans l'absolu, on pourrait se contenter que de ça. On remplit notre feuille de personnage, ça y est, go, on ne réfléchit pas tant que ça à la psychologie du personnage, ce genre de choses. C'est peut-être la phase qui reflète le plus les intentions de jeu du rôliste. J'y reviendrai avec mon exemple de gradient. Et ce n'est pas un événement fini. Ce n'est pas lorsque l'on a rempli la feuille de papier que le personnage n'évoluera plus. Hein, on le sait tous, un personnage... Alors, si on est dans un système avec level up, les caractéristiques sont amenées à changer, mais au-delà de ça, même la psychologie du personnage en fonction des événements qu'il sera amené à vivre viendront soit bousculer comment il fonctionne, soit en tout cas lui donner un peu plus de profondeur. C'est pourquoi on peut considérer cette phase comme une création initiale, pas une création tout court. Alors l'exemple de gradient d'engagement que j'ai mis, donc Agon et Aléa, est-il bien nécessaire de le rappeler, qui font partie des typologies en fait de jeux de Kaiwa. Donc Agon, juste pour rappel, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas, c'est en fait la facette, on va dire, pour faire des raccourcis compétitifs. Voilà, c'est l'optimisation, on va dire, des valeurs du personnage là dans ce cas-là ou de l'individu en vue de réduire le paramètre incertain dans le jeu. Dans l'exemple du jeu de rôle, c'est l'optimisation du personnage. Voilà, par exemple, avec voilà ce cliché qui est le gros bill où on optimise toutes ses caracs, on fait bien attention à ce qu'on va prendre pour que ce soit pour maximiser ses chances de réussite. Et d'un autre côté, il y a la facette interprétative, qui est l'aléa. Ça se repose plus sur finalement le hasard. Non pas qu'on choisisse au hasard ses compétences, mais en tout cas, on s'en remet plus à ses capacités, à son talent de son talent non pas chiffré, mais plutôt pas en quanti, mais en quali. Voilà. Il y en a d'autres. J'aurais pu en citer d'autres. Conclusion sur ces deux phases qui se combinent bien. L'appréhension et la caractérisation répondent à des critères et standards plus ou moins normatifs. J'entends par là, par exemple, le jeu en lui-même, l'univers, le système, les règles, entre autres, les libertés et limites qui sont édictées par les joueurs et ou le maître du jeu. Mais également des cultures référentielles. On ne peut pas, on en parlait hier par exemple dans tout ce qui était transmédia, on ne peut pas non plus, dans une certaine mesure en tout cas, transgresser l'univers. Voilà. Donc il faut avoir une certaine convergence référentielle à ce niveau-là. Alors certains de ces critères, j'ai dit ces critères, mais certains d'entre eux peuvent créer des distances psychologiques de grandeur variable entre le rôliste et son personnage. Alors effectivement, dans des jeux, et là je ressors ma carte Donjons et Dragons, si l'on joue un elfe, déjà, qu'est-ce que c'est un elfe? Est-ce qu'il en existe dans la nature pour pouvoir se calquer et adopter, on va dire, leur comportement? Alors ce qu'on a, évidemment, heureusement, c'est les livres, les romans, les ajouts, enfin tout ce qui est information rajoutée dans les livres de jeu, mais... Déjà, ne serait-ce que ça, ça crée des distances psychologiques. Voilà. Que la convergence référentielle tend à réduire, en tout cas en termes de dissonance. Alors l'appropriation, donc troisième phase du modèle. Alors l'appropriation, c'est la projection de l'individu dans son personnage, ainsi que son investissement pour lui donner vie, consistance, profondeur et cohérence. C'est ce que certains pourraient appeler l'identification, quelque part. Ça se caractérise par une projection ou une distanciation de grandeur variable entre le joueur et son personnage. Je pense là tout est dit. L'exemple de gradient que j'ai donné, c'est par exemple, soit effectivement on se projette suffisamment dans son personnage pour en faire une espèce d'alter ego ou en tout cas avoir un attachement sentimental fort pour pouvoir s'y identifier. Soit c'est un simple pion. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché à notre pion, mais on ne s'y identifie pas. Et c'est juste le reflet quelque part d'intention de jeu et pas d'intention d'interprétation ou de fiction. Alors l'interprétation, c'est le rendu en jeu de l'ensemble des phases précédentes. C'est lorsque l'on joue, c'est l'anima du personnage. Et cette interprétation, c'est elle ne trompe pas. Elle définit le plan de présence et le cadre de participation privilégié par le rôliste. C'est Shulga qui parle de ces cadres de participation. Alors juste pour rappel, je vais faire des raccourcis, je me rappelle plus exactement comment elle les appelle, mais en gros les cadres de participation de Shulga sont tout ce qui est intradiégétique, donc on est effectivement dans la fiction, tout ce qui est un peu plus à un niveau méta, où effectivement on est toujours dans le jeu, mais où le jeu est commenté, c'est lorsque l'on jette les dés, lorsque l'on a besoin de renseignements, qu'on demande au MJ, sachant qu'on ne peut pas être tout dans l'un ou tout dans l'autre quelque part. Et le dernier plan, c'est le plan totalement extra extra au-delà d'extradiégétique, on est dans l'extraludique quoi. On ce qui est en dehors du jeu, on parle de ce que l'on a fait la semaine, tout ça. Ça ne vient pas du tout alimenter la partie. Voilà. Alors effectivement, bon, j'aurais pu parler d'interprétation intradiégétique. Donc là, je parle d'intradiégétique ou d'extradiégétique en référence à Shulga. J'aurais pu parler de roleplay ou de gameplay de la même façon. Voilà. Alors la conclusion sur ces deux phases, l'appropriation et l'interprétation, elles correspondent à ce que Guyot qualifie d'identification. Hein, j'y ai fait référence et se caractérise par son style. Je vais retrouver d'abord les références et avec un peu de chance, ouais. Se caractérise donc selon Guyot par son intensité, son style que nous avons déjà vu et le rapport à soi qui s'en dégage. Alors l'intensité détermine l'importance de la projection du joueur vers son personnage. Elle indique si le personnage, en fonction de l'investissement qui lui est consacré, est suffisamment important pour que le rôliste s'y projette affectivement ou s'il n'est pour lui qu'un simple support de jeu. Voilà, tel un pion, comme je l'ai cité, qu'il utilisera mécaniquement, mais pas nécessairement sans plaisir, pour réaliser ses actions de jeu, et non pas en jeu. Voilà. Donc on est toujours là pour la question du pion, on est plus effectivement dans du méta et du ce que l'on pourrait appeler éventuellement du péri diégétique. Enfin, donc le style, je vais pas répéter, je l'ai déjà cité. Et le rapport à soi revient à se demander à quel point le personnage ressemble au joueur qu'il interprète. L'individu s'est-il projeté dans son personnage au point d'en faire un alter ego, ou bien s'en éloigne-t-il suffisamment pour tenter l'expérience de l'altérité d'un personnage aux caractéristiques propres et distinctes. Ces deux phases finalement, elles renvoient à la notion de mimicry de Kaiwa, pareil, qui je vais le citer pour ne pas trahir sa pensée, qui dit c'est devenir, donc ça consiste à devenir soi-même un personnage illusoire et se conduire en conséquence, ainsi qu'à jouer, à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même. Bon, là encore, dans cette citation, Kaiwa est beaucoup dans un... Enfin, en tout cas, sans vouloir trahir sa pensée, j'ai l'impression qu'il donne une version, en tout cas par rapport à ce que je dis, très... où déjà l'identification est assez forte. Ce que je dis, c'est que, enfin, et Guyot aussi, c'est que cette distanciation peut être un peu plus élevée, et on n'est pas nécessairement dans une notion de faire dans un processus où on cherche à faire croire ou quoi que ce soit. Et donc ces deux phases, finalement, sont l'appropriation et l'interprétation. Sont sûrement les phases où l'intensité de l'engagement du joueur vis-à-vis de son personnage sont les plus perceptibles. Effectivement, si dans les deux autres phases, c'était assez, enfin en tout cas le rapport au personnage était assez, on va dire, moins perceptible. Pourquoi ? Parce que ça relève d'une, on va dire, d'une pensée qui est bien souvent interne, qui n'est pas révélée, où on se fait un peu sa petite computation mentale et pour créer son personnage. Là, ça ne trahit pas. Hein. On est dans l'interprétation, dans l'appropriation. Nécessairement, les autres autour de la table le verront. Voilà. Donc pourquoi c'est peut-être le plus perceptible, mais ce n'est pas nécessairement le plus intense. Alors j'ai réfléchi effectivement cette présentation pour qu'elle soit relativement courte pour qu'on puisse en discuter. Voilà, donc merci pour votre attention et je suis tout disposé à répondre maintenant à vos questions.
Allô ? Oui. Donc on a plein de temps pour plein de questions. Qui veut se lancer ? La première du matin ? Oh, tout le monde dort. Ah.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Un, deux, un, deux, oui. Dans ton modèle, de quelle manière est-ce que tu prends en compte la façon dont chaque joueur va interagir dans cette création de personnages ludiques. C'est-à-dire, où se situe l'engagement dans l'interaction et la combinaison entre chaque joueur, la confrontation des joueurs les uns avec les autres.
Alors, mettons, par exemple, un instant type. Alors, donc, typiquement, dans la convergence référentielle. Par exemple, effectivement, si on est lacunaire, ou certes, allez, on prend un exemple d'une table de nouvelles initiées. Et de nouveaux initiés, pardon. Et bien, typiquement, si je ne sais pas de quoi ça relève, le MJ est là pour assister. Donc là, effectivement, il y a une interaction. Ceux qui sont plus avancés dans la connaissance du jeu ou de l'univers, tout ça, viennent, adoptent une posture pour combler, on va dire, ce déficit en termes de référence. Donc là, voilà, la dynamique de groupe se crée. Mais après, je l'ai peut-être pas perçu sur d'autres phases. Mais au niveau de la convergence référentielle, je pense que c'est là où l'autre est le plus actif. Bon, bien sûr, en jeu, évidemment, on est en interaction, mais en termes de création, on va dire, si on devait se limiter, allez, on va faire des raccourcis, je vais trahir mon propre modèle, si l'on se cantonnait à la caractérisation ou l'appréhension, oui, là, la convergence référentielle, on est en plein dedans. J'espère avoir répondu, hein, peut-être voilà. J'ai tapé à côté.
D'autres questions, remarques? Non? Moi, je me pose. Ah oui. Bon.
Bonjour. Je me posais la question, quand on crée un personnage qu'on ne jouera pas, en fait, que ce soit un personnage d'un nouveau jeu qu'on a et on est super emballé, donc on crée le personnage, mais finalement, avant qu'on y joue, il va se passer un beau bout de temps, puis finalement, quand on y jouera, on fera peut-être un autre personnage. Ou alors, le cas classique du MJ, qui est un peu frustré de pas avoir son personnage et qui se crée un personnage, mais qui l'amène jamais en jeu, mais qui peut éventuellement imaginer des choses. Comment ça, la phase d'interprétation, comment elle est prise en compte dans ce cas-là?
Ah ben, s'il n'est pas joué, je pense qu'il n'est pas interprété, du coup, mais
Même si la personne imagine ce qu'il pourrait faire avec son personnage, imagine son futur, etc.
Alors. Écoute, pour être honnête, j'ai pas pensé à ce cas de figure, mais maintenant mon modèle ne s'occupe que, enfin, ça se trouve il pourrait être étendu au cas que tu m'apportes, mais ça ne s'applique là dans le cas présent qu'au personnage fonctionnel. Voilà. Maintenant dans le cas que tu cites, effectivement, on a l'appréhension, on a la caractérisation, on a l'appropriation, c'est peut-être éventuellement l'interprétation qui fait défaut. Mais si après, comme tu le dis, si c'est qu'une question de temporalité et que ça finira par venir, bon, c'est pas grave, la boucle sera un peu plus longue. Mais là, pour le coup, là, l'interprétation, effectivement, je la vois pas. Donc, modèle à compléter, peut-être.
Du coup, le même problème se pose pour les pré-tirés.
Alors, le pré-tiré, oui, effectivement, j'avais prévu d'en parler. Je te remercie d'ailleurs de me donner l'occasion. Le pré-tiré, c'est, alors, je vais essayer de retrouver la diapo. Oui, ben voilà. Par exemple, là, dans la caractérisation, ça, le pré-tiré rentre là. Soit, effectivement, donc là, Agon Alea, c'est un exemple, mais en termes de caractérisation, l'engagement peut être au niveau de la création. En termes de, soit, effectivement, le MJ me donne un personnage pré-tiré et on est dans un pôle du gradient, soit je suis attaché à le créer de A à Z, on est de l'autre côté du gradient, mais ça n'empêche pas, en tout cas je pense pas, ça dépend du joueur effectivement, mais ça n'empêche pas a posteriori une appropriation, une identification forte si éventuellement, mais tout dépend, c'est pour ça que je propose des gradients. Mettons, si effectivement le personnage qui nous a été prétiré, l'archétype, ne nous convient pas, bon, bah, peut-être qu'on s'y attachera pas du tout, mais ça fait partie en tout cas du modèle, quoi. On est dans l'un des pôles du gradient qui est un peu relativement pas extrême, mais voilà. Mais ça n'empêche pas, je pense pas. Après, ça tout dépend du joueur, hein, effectivement, et du personnage, mais il peut y avoir une appropriation, une identification et une interprétation. Hein, ça, je ne pense pas que le personnage en soi tout cas je n'y ai jamais été confronté, mais qu'un personnage prétiré est empêché une si par exemple un joueur est plutôt RP, je pense pas que ça l'empêche. Mais,
ouais. Moi j'ai deux questions. Quand tu dis joueur, c'est au sens large, donc ça peut inclure le MJ qui crée des PNJ.
C'est
ou
ça.
Pas
c'est ça.
Dans ton modèle aussi.
Ça rentre dans le modèle effectivement. Je l'ai pas cité, merci. Ça inclut les PNJ, le MJ. Sauf que là, au niveau de peut-être pas au niveau de l'interprétation, parce que des fois le MJ est quand même attaché à l'interprétation de ces PNJ, mais au niveau de l'appropriation, peut-être qu'elle sera moindre. On sera dans l'un des côtés du gradient. Voilà, au niveau du pion.
Ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses mettre ce modèle-là, prendre des exemples de jeux et de voir où ils placent les curseurs. Par exemple, je sais pas, les jeux un peu old school, des fois on tire carrément les personnages avec des jets de dés, donc on est vraiment à l'extrême en termes d'appropriation ou de caractéristiques ou des choses comme ça qu'on décide pas. Voir à des jeux où tu design entre parenthèses.
Ouais. Alors je n'ai pas encore mené ce travail. Pour l'instant, parce que j'ai préféré, j'y ai songé, mais j'ai préféré m'en détacher. Pourquoi ? Pour ne pas être, on va dire, je n'irai pas jusqu'à dire parasité par certains systèmes de jeu qui pourraient influencer le modèle, on va dire. J'ai voulu un modèle, on va dire, générique. Effectivement, en fonction des jeux de leur système.
Ce serait intéressant d'illustrer.
Ce sera,
pour un exemple,
je pense plus ou moins que ce serait pas mal.
À gauche ou à droite de la flèche. Dernière question.
Ça va être vite. C'est juste pour revenir sur ce que tu disais sur les prétirés.
Ouais.
Et pour que ce soit clair dans ma tête, en fait, parce que peut-être que tu l'as dit, mais du coup, les différentes phases pour un seul personnage, elles sont pas forcément assumées par la même personne.
Alors, effectivement, alors, comment dirais-je? Si, elles peuvent être assumées par une seule personne, même dans le cas des prétirés. Parce que, mettons, même si, je vais parler toujours par exemple, mais mettons un personnage, même si on lui donne un prétiré, un joueur, même si on lui donne un prétiré, et si c'est un tant soit peu, et bon, ce sera le rôle du MJ de le renseigner un peu sur l'univers de jeu, il aura quand même une phase d'appréhension qui lui permettra de nourrir finalement, même si on lui donne, ok, c'est bon, t'as compris tout ce qui était elfe, nain, humain, bon ben voilà, allez, tiens, t'as un orque, tout ça. Donc quelque part, voilà, il y a eu l'appréhension. Donc même si effectivement le personnage est prétiré, on n'est pas très renseigné, mais bon, on sait à peu près comment ça fonctionne. Les elfes, c'est les mecs qui se promènent dans la forêt, les nains sous la montagne, et ça permet, on va dire, voilà, ça vient nourrir l'appréhension. Donc le cas du prétiré n'empêche pas ça, on va dire. Voilà.
Ah. Alors, très rapide. On va pas commencer à prendre beaucoup de retard, mais très très rapide.
Du coup, pour l'appréhension, je vois, mais pour la caractérisation, parce que reflète les intentions de jeu du rôliste, si on lui donne un prétiré, ça reflète pas ses intentions de jeu, il faut qu'il adapte ses intentions de jeu aux intentions de jeu du maître de jeu.
Oui, alors. Effectivement, alors, les intentions de jeu, en même que ce soit prétiré ou pas, après, tout dépend de ce qu'on appelle intention de jeu, mais si le joueur a décidé de jouer RP, je ne pense pas que ça l'empêchera. Mettons, ça l'empêchera. Alors effectivement, si alors, dans le cas où il joue, où il veut jouer optimisation, là, il devra revoir un peu, changer son fusil d'épaule. Mais je ne pense pas que ça affecte tant que ça les intentions de jeu, on va dire. En tout cas, pas toutes les intentions de jeu.
Merci beaucoup, Hugo. Merci encore.
Merci.